Studio mobile de Timbre FM.
C'est le créneau dédié aux rediffusions,
de couverture d'événements,
festivals, marchés d'artisanat,
forums, etc.
Mené par Timbre FM
avec ses équipes timbrées
et son studio mobile.
Et la plupart du temps,
ça se fait en direct et en public.
Le studio mobile de Timbre FM, ça la bouge.
Le monde est vaste et il en faut des yeux pour le voir. Si nous avons beaucoup voyagé cet après-midi au Festival Arrêt Nature de Paimpont, nous revenons vers notre nid pour accueillir Éric Médard, photographe mayennais. Bonjour Éric.
Bonjour.
Alors la Mayenne, nature sauvage ou esthétique domestique ?
Ah, je dirais les deux, c'est-à-dire que c'est à la fois en effet un département qui a une esthétique comme tous les départements, je veux dire qu'il a sans doute rien de plus mais rien de moins que les autres, et on peut être vraiment surpris d'un point de vue paysager, et c'était un peu l'objectif du livre que j'ai sorti à propos de ces paysages de la Mayenne, c'était de surprendre les Mayennais et de leur faire de leur donner envie de retourner voir des paysages qu'ils connaissaient et sans doute beaucoup qu'ils ne connaissaient pas. Donc oui, il y a une esthétique de la Mayenne sans aucun doute. Quoi.
Voilà. Mayennais est fier de l'être.
Ouais, Mayennais par adoption d'ailleurs, mais vraiment bien adopté ce département. Oui.
Et on parle ici essentiellement sur le Festival Arrêt Nature de Paimpont. On a rencontré et on peut voir ici beaucoup de photographes et de peintres animaliers. Le travail dont on parle ici est un travail essentiellement paysager,
oui.
Pour le livre dont on parle sur la Mayenne.
Oui.
Mais tu as une autre corde à ton arc, si j'ose dire, qui est la photographie animalière.
En fait, c'est surtout la photographie animalière qui est mon credo. Je dirais que la photographie de paysage, c'est plutôt un pas de côté en ce qui me concerne. Mais voilà, je suis avant tout photographe naturaliste et je tiens à ce terme de photographe naturaliste. Je dirais même peut-être naturaliste photographe, même si je m'emploie à faire des photographies les plus esthétiques possibles et qui véhiculent une émotion la plus importante possible. Mais voilà, naturaliste photographe.
Dans le sens où naturaliste, dans le sens où la démarche scientifique prime sur la démarche artistique.
Elle ne prime pas, je dirais que les deux sont importantes, mais elle prime au sens où elle est indispensable. C'est-à-dire qu'on ne peut photographier que ce qu'on le connaît, et surtout pour ne pas faire d'erreur, parce qu'on ne travaille pas avec la faune sauvage comme on va travailler avec un modèle ou peut-être de la publicité ou des choses comme ça. La faune sauvage, c'est du vivant, et elle est déjà tellement impactée par ailleurs qu'on ne peut pas se permettre, nous, photographes, d'en rajouter une couche, je dirais. Donc il faut absolument bien la connaître pour la photographier, déjà, pour pouvoir la trouver, pour pouvoir savoir comment faire pour la photographier et puis pour ne pas se tromper et pas la déranger. Et ensuite, la photographie, après, ce travail de photographie permet de la sublimer, on va dire, et puis d'émouvoir le public et puis peut-être de donner envie d'y faire attention. Quoi.
Tu dis qu'elle est fort malmenée, d'après toi, les naturalistes photographes ou les photographes naturalistes, est-ce qu'ils seraient les veilleurs de cette nature fragile ?
Eh bien là, c'est un vrai paradoxe. C'est-à-dire, moi, je m'interroge beaucoup, beaucoup sur ma pratique, au sens où, en effet, tous les photographes naturalistes que nous sommes, on doit vivre de nos images, enfin en tout cas pour les professionnels dont je fais partie, on vit de nos images. Et donc pour vendre des photographies de nature, il faut avoir des photographies qui soient belles et qui fassent rêver les gens. Le problème aujourd'hui, c'est que donc on s'emploie tous à faire des photographies d'animaux les plus esthétiques possibles, les plus belles possibles. Et à partir de là, le public se dit, tout va bien. Ces animaux, ils sont là, ils sont beaux, ils existent toujours, pas de souci. Alors est-ce qu'aujourd'hui, le photographe naturaliste, je m'interroge par rapport à ma pratique, parce qu'est-ce qu'aujourd'hui on ne devrait pas montrer cette nature qui part en vrille dans tous les sens, mais auquel cas, est-ce qu'on va pouvoir vivre de notre travail parce que personne n'a envie d'acheter une photo de mouette sur une décharge ou
un cadavre de buse sur la route.
Voilà, exactement. Donc c'est une vraie problématique, je dirais, mais c'est un questionnement en tout cas que moi j'ai de plus en plus, ouais.
Oui, par contre, l'esthétique, parce que tu as aussi fait un travail, moi, que j'ai cru un travail de noir et blanc au départ. Et il a fallu que tu nous expliques juste avant l'interview que ce n'est pas spécialement un travail de noir et blanc, c'est un travail nocturne. Et là, ça donne une dimension très esthétique à tes prises de vue. Et en même temps, on est vraiment dans quasiment une prise de vue scientifique quand même.
Oui. En fait, oui, c'est un travail noir et blanc de fait parce que c'est un travail en photographie infrarouge, c'est-à-dire que la lumière utilisée pour éclairer ces animaux nocturnes, c'est uniquement de la lumière infrarouge. Donc il a fallu modifier le matériel photographique pour qu'il devienne sensible à la lumière infrarouge et éclairer avec des sources de lumière infrarouge. L'idée, justement, c'était de ne pas déranger ces animaux et d'avoir des comportements qui soient les plus naturels possibles. C'est pour ça que, du coup, c'est un côté documentaire naturaliste qui est intéressant. Et en effet, ça rajoute une des... Enfin, après, là, c'est mon côté photographe. En effet, ça a été de travailler mes éclairages pour donner une dimension esthétique la plus importante possible et pour voilà, sensibiliser le regardeur à ces espèces et à cette ambiance, à ces ambiances nocturnes.
Alors moi qui suis photographe très amateur, pour moi la photo, il faut que je voie d'abord mon sujet. Comment est-ce qu'on va travailler de nuit sans effrayer l'animal et pouvoir prendre la photo et qu'au moment du déclic, l'animal soit sur la pellicule?
Ouais. Alors là, j'ai utilisé deux procédés. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un procédé habituel, on va dire, pour le photographe animalier qui est de travailler en affût. Alors là, encore, j'ai utilisé l'infrarouge, c'est-à-dire que j'avais, pour éclairer mes animaux sans qu'ils voient que je les éclaire, je les éclairais avec un projecteur infrarouge et avec mon appareil photo. Aujourd'hui, il y a un principe qui s'appelle le live view, c'est-à-dire qu'on voit en direct ce que voit l'appareil photo, entre guillemets, voit. Et donc, comme ces appareils modifiés voient cette lumière infrarouge qu'il est le seul à voir, puisque nous, nos yeux ne nous permettent pas de voir l'infrarouge, ben ça me permettait de suivre mon sujet de nuit, dans la nuit noire, ce qui avait un côté assez magique, hein, puisqu'il faisait noir quand je regardais par la fenêtre de l'affût, et sur mon appareil photo, je voyais les animaux, et de déclencher au moment opportun. Donc j'ai travaillé comme ça à l'affût, mais le gros des images a été fait avec des systèmes de pièges photographiques. Alors je vous rassure, c'est des pièges pacifiques. Mais le principe, c'est quoi? C'est un dispositif photographique qui est installé dans la nature. C'est un trépied avec un gros boîtier qui permet d'étanchéifier l'ensemble et de l'insonoriser. Et des éclairages infrarouges dispatchés autour de cette scène à photographier, que je dispatche évidemment avec mes connaissances de la photographie pour faire cette fameuse image dont j'ai besoin. Et cette scène, quand l'animal rentre en scène, il déclenche tout le dispositif à partir d'un petit capteur. Le capteur, c'est quoi? C'est un petit boîtier qui émet un fil, on peut imaginer un fil de lumière, lui aussi infrarouge, donc invisible. Et quand l'animal coupe ce fil de lumière, il déclenche tout le dispositif. Et évidemment, ce fil, je le mets où je veux. Donc ça veut dire que ma composition de ma photographie, elle est faite sans que l'animal soit présent, évidemment, mais elle est faite de manière très très précise. Je sais exactement où l'animal va déclencher, quand ça va déclencher. S'il n'est pas là où je veux, ça ne déclenche pas, en fait, je n'aurai pas d'image. Donc voilà, ma photographie, elle est pas du tout due au hasard, elle est vraiment liée à tout ce que j'ai préparé et à ma connaissance de l'animal, c'est-à-dire savoir dans quel sens il va passer, pourquoi il va passer là plutôt qu'ailleurs, etc. Mais il n'y a rien qui est lié au hasard. Après, la partie de hasard, c'est s'il y a un animal imprévu qui passe, qui est arrivé parfois, ou alors la position de l'animal parfois, notamment quand c'est des photos en vol, on ne sait pas exactement quoi être positionné les ailes, etc. Donc ça, évidemment. Et après, c'est la multiplicité des images qui font que je vais avoir l'image que je désir.
Et ce qui te permet aussi du coup d'être en retrait de la scène,
oui,
de ne pas être présent et de ne pas perturber le comportement spontané,
voilà,
de l'animal.
Complètement. Ça me permet d'être loin, même d'être tellement loin que parfois à plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres, puisque mon matériel, je vais le laisser en place pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et je vais y revenir le moins possible pour justement, parce que ce matériel que je mets en place sur le terrain, les animaux, j'apporte quelque chose dans leur territoire. Donc ça les dérange. Des animaux comme le renard, par exemple, extrêmement sensible, il va mettre plusieurs jours avant de revenir après que j'ai installé quelque chose comme ça. Et si moi, je vais enlever mon matériel tous les jours, ben, je ne ferai pas une image. Donc là, il faut accepter de laisser le matériel sur le terrain avec les risques que ça comporte et l'oublier, enfin le faire oublier, en fait, ce matériel, et moi me faire oublier en disparaissant, et après ça travaille tout seul. Bon, évidemment, avant que ça travaille tout seul, il y a un peu de travail à faire, mais après ça travaille tout seul.
Ouais, mais la question que je me pose, c'est si tu n'es pas toujours là ou tu n'es même pas souvent là quand la photo est prise, comment tu fais pour les éclairages? C'est-à-dire, j'ai vu tes photos, il y a une superbe lumière dedans, alors qu'à différents moments de la journée, la lumière n'est pas la même.
Ouais. Alors moi, en fait, ce qui se passait dans la journée, je m'en moquais, puisque c'était un travail sur la nuit. Donc en effet, j'ai eu des fois des déclenchements avec des animaux diurnes, mais je dirais que j'ai gardé les images, ou pas d'ailleurs, mais là, c'était un travail que sur la nuit. Donc moi, j'avais vraiment calé mon éclairage pour éclairer des choses dans le noir, quoi. Et alors je dirais qu'il y a à la fois l'expérience, c'est-à-dire qu'à force c'est quand même 4 ans de travail ce travail-là. Donc et puis le piégeage photographique, j'ai même écrit un livre sur le piégeage photographique d'ailleurs, donc ça fait 25 ans que je fais du piégeage photo, donc je dirais que je débute pas tout à fait en la matière. Et donc c'est mon expérience qui fait que je voyais vraiment comment mettre mon éclairage, quelle puissance des flashs infrarouges, etc. Et puis après, quand j'avais un doute, j'attendais parfois la première nuit pour déclencher et pour voir ce que donnait mon éclairage, si j'allais pas modifier l'orientation d'un flash ou des choses comme ça. Donc il y avait un travail préalable, mais après, une fois, comme tout est en manuel et tout est calé, une fois que c'est bien calé tout ça, ben, ça fonctionne tout seul. Et je dirais que dans 100% des cas, ça marche, quoi.
T'as aussi fait un travail sur les rapaces.
Oui.
Comme je suis pas du tout moi un spécialiste des oiseaux, je me rappelle plus du nom parce que tu l'as dit, c'était un épervier, il me semble, mais particulier.
Non, pas particulier, c'est l'épervier et l'autour des palombes. Donc les rapaces, c'est pareil, c'est des animaux qui m'obsèdent, je dirais, depuis ma tendre enfance, et l'épervier en particulier, c'est vraiment un oiseau qui me passionne depuis toujours. L'autour des palombes également, mais c'est un oiseau qui était tellement fantomatique et tellement rare que j'avais un petit peu laissé de côté pendant ces dernières années. Donc en effet, je présente un travail sur l'épervier d'Europe, l'autour des palombes. C'est deux espèces de rapaces qui sont forestières, qui vont chasser en forêt, qui sont extrêmement discrètes, extrêmement difficiles à observer et pour lesquelles en fait on a très peu d'oiseaux, très peu de photographies. On a des photographies d'épervier parce qu'il vient souvent l'hiver manger autour des mangeoires, attraper une mésange ou un verdier. Et donc voilà, comme il y a pas mal de gens qui photographient autour des mangeoires, on a assez souvent des photographies d'épervier faites dans ces conditions. Mais sinon, l'épervier sur son territoire de reproduction, les comportements d'épervier, ça on a quand même très très peu. Et l'autour des palombes, alors lui on n'a rien, quoi, parce que c'est vraiment une bête que personne ne voit quasiment.
En parlant de bêtes que personne ne voit, j'ai été surpris de voir dans ta collection de photos un animal que moi personnellement je ne connaissais pas il y a un an, alors que j'ai un petit peu creusé le monde animal, comme je t'expliquais tout à l'heure, modestement. J'ai découvert qu'il existait dans nos campagnes un animal qui s'appelle la genette.
Oui.
Et je l'ai vu dans tes photographies de nuit, notamment comme, quand tu nous parlais de piégeage photographique. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu, si j'ose dire, sur cet animal nocturne ?
Je vous éclaire en infrarouge ou en lumière visible ?
En verbal, puisque nous sommes à la radio.
D'accord. Alors oui, la genette, c'est même elle qui fait la couverture du livre. C'est un animal qui, moi, que je connaissais depuis plus longtemps, on va dire, mais que je connaissais juste d'un point de vue livresque, quoi. Je ne l'avais jamais observé. Je ne l'ai toujours jamais observé. Je l'ai photographié, mais mes pièges photos l'ont photographié, mais moi, je ne l'ai pas observé. Par contre, je connaissais bien ses habitudes. Donc là encore, pour cet animal-là, pour la photographier, il a fallu que je cherche ses indices de présence. La genette, c'est donc un animal qui fait partie de la famille des viviridés. C'est le seul représentant de son espèce dans notre faune française. C'est rigolo parce que c'est un animal qui a un petit peu des caractères du chat. Il a des griffes rétractiles, il a une pupille verticale et il est tacheté un peu comme un léopard avec une très longue queue qui lui sert à s'équilibrer quand elle saute de branche en branche parce que c'est un animal qui grimpe très bien. C'est un carnivore qui va manger des petits passereaux, qui va manger des rongeurs, qui va manger des escargots, des batraciens, enfin pas mal de choses. Elle a un régime alimentaire plutôt éclectique. Et cet animal, eh bien, elle a pour habitude de marquer son territoire comme beaucoup de carnivores et elle fait ce qu'on appelle des crottiers, c'est-à-dire qu'elle a des pôles comme ça de marquage sur lesquels elle va venir faire sa crotte une fois, deux fois dans la nuit. Et il me fallait trouver un endroit comme ça pour la photographier parce qu'évidemment c'est des secteurs où on est sûr que normalement elle va passer au moins une fois dans la semaine ou si elle est bien présente sur son territoire. Donc c'est ce que j'ai cherché et c'est ce que j'ai trouvé grâce à un ami en Ariège parce que je l'ai photographié en Ariège pour le projet du livre. Ensuite j'ai été faire des photographies en Vendée grâce à un autre naturaliste qui s'appelle Patrick Trécul qui connaît bien cet animal. Et donc on a cherché ces spots où elle marque, on a mis nos pièges photographiques et on a réussi à faire ces fameuses images de genette. Un animal qui est, c'était bien pour la couverture du livre parce que c'est s'il y a un animal qui est un passeur de lune, qui est juste fantomatique, invisible, c'est elle, à tel point qu'elle est bien bien présente dans notre faune, surtout donc au sud de la Vendée, et personne ne la connaît.
Et tu expliquerais cette méconnaissance de cet animal par son extrême furtivité, son régime nocturne.
Oui.
C'est, et puis son milieu de vie qui est plutôt prairie, forêt
de... ben en fait, elle est assez proche des habitations, beaucoup plus qu'on ne le pense. Elle peut même parfois passer la journée dans un grenier, dans du foin, sans qu'on l'imagine. Souvent, elle passe la journée plutôt dans un nid de corvidé ou dans un trou d'un arbre assez en hauteur. Mais en effet, elle est tellement discrète qu'on ne la connaît pas. Et c'est vraiment ça, elle est furtive. Au mieux, on la voit traverser la route. Au pire, je dirais, on la voit écraser sur le bord de la route. C'est un peu comme
sans ça.
Sans nécessairement savoir que c'est ça, parce qu'en effet, elle est méconnue. Et plein de gens la découvrent, comme toi, là, en disant « Pouh, qu'est-ce que c'est que cet animal ? Ça vient d'où, quoi ?»
Comment ne connaissions-nous pas un mammifère de cette taille-là qui habite chez nous ?
Et puis si beau.
Et si beau, si fin. Et du coup, j'en ai oublié ma question. Justement quelque part le type de travail que tu fais avec cette distance physique que tu mets entre ton sujet et toi te permet de capter ce monde sauvage. Comment tu approches la démarche scientifique qui se lie à cette recherche esthétique d'abord en tant que photographe. Quelle est la démarche scientifique ? Enfin, est-ce que toi, tu es parti d'un parcours scientifique qui t'a amené à la photographie ? Ou comment les deux s'équilibrent dans ta démarche ?
En fait, il y a les deux. C'est-à-dire que depuis tout gamin, moi, je parcours la nature, je parcours la forêt. D'ailleurs, plutôt en braconnant quand j'étais gosse. Du coup, je continue à braconner, mais sauf que l'animal en photo, il sert plusieurs fois. C'est quand même mieux. Et en dehors de ça, j'ai fait une formation scientifique. J'ai fait une formation de sciences nat à la fac de Rennes, d'ailleurs, pas très loin. Et de fil en aiguille, je suis amené à témoigner de toutes ces observations naturalistes que je faisais avec l'appareil photo, parce que je savais pas tenir un crayon ou un pinceau. Donc le seul média que j'ai trouvé et qui m'était pour moi le plus simple et le plus immédiat, ça a été la photographie. Et puis après, donc j'ai pas une formation de photographe en fait. J'ai vraiment une formation plutôt naturaliste. Et puis voilà, c'est un monde qui me passionne depuis tout gamin. C'est pareil, je faisais des cabanes depuis tout gamin. Je continue à faire des cabanes. Donc je m'amuse quand comme un gosse et voilà, et donc ça n'a pas empêché d'avoir en effet cette rigueur scientifique par rapport aux prises de vue. Et c'est pour ça que le côté naturaliste, tout à l'heure je le soulignais, mais il est pour moi extrêmement important, et que nos images doivent vraiment montrer des choses vraies. Il y a aujourd'hui une dérive dans la photographie animalière qui fait que beaucoup de gens, d'ailleurs je ne sais pas si on peut les appeler des photographes animaliers, mais des photographes seulement, passent leur temps à courir les hotspots. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont aller dans des affûts qu'on appelle les affûts payants, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher des animaux où tout est déjà préparé, et ils n'ont plus qu'à se mettre dans des affûts payés et faire les photographies. Ou alors aller sur des endroits où les animaux sont connus comme étant pas farouches ou plus ou moins acclimatés. Sauf que ces photographies-là, elles montrent pas forcément les choses de la nature, puisque ce sont des animaux qui ont des comportements qui sont quand même modifiés ou adaptés. Et ça, c'est un petit peu gênant, je pense, dans notre profession aujourd'hui. Et vraiment, je crois qu'il faut faire attention de vraiment partir de la nature, partir de l'animal sauvage et l'apprendre, cet animal. Passer des heures et des heures à l'observer, à le travailler pour en tirer des images qui soient des images qui le montrent vraiment dans sa vie vraie. L'épervier, par exemple, pour revenir à lui, là, que je vous présente ici, j'ai fait un travail donc, au moment sur la période de reproduction de cet oiseau. C'est un site que je suis depuis plus de 15 ans. Et ces oiseaux-là, pour cette année, j'ai passé 5 semaines à suivre ce couple tous les jours, sans exception, 10 à 12 heures d'affût par jour. Ça m'a permis de faire des images et des observations que je n'avais jamais faites avant, mais c'est à ce prix-là, je pense, qu'on fait de la photographie naturaliste. C'est vraiment
ce qui la distingue de la photographie esthétique.
Oui, consommatrice, on va dire.
Consommatrice, voilà, mais qui n'est pas nécessairement mauvaise en soi, dès l'instant qu'on respecte l'animal qu'on prend en photo.
Et c'est là qu'il y a un petit souci, c'est que quand on paye pour aller dans un affût, on ne sait pas ce qui s'est passé par rapport aux animaux. Je pense à des affûts en Finlande, par exemple, sur les ours, où on va avoir 15 cabanes d'affût les unes à côté des autres, et où on donne depuis des années des truies ou des porcs à manger à des ours.
Au
même endroit. Quel sens ça a, ça, je suis pas trop sûr que ça soit quelque chose qui ait du sens, quoi.
On est vraiment, effectivement, comme tu dis, dans la consommation photographique voilà. Qui n'a rien de naturaliste.
Il faut aller vite, Et il faut aller vite pour faire des images, parce qu'en fait, on voit tellement d'images se promener aujourd'hui que les gens ont envie de faire les mêmes. Mais ils grillent complètement les étapes. Moi, mon premier ours, ça fait 30 ans que je rêve d'ours. Mon premier ours, je l'ai vu il y a 2 ans en Slovénie, seulement au bout de mon deuxième voyage. Et du coup, ça a été une émotion complètement dingue. Mais parce qu'il y a eu toute cette attente avant qui fait qu'il y a eu ça. Bien sûr que je rêvais devant les images d'ours, mais je me suis refusé à aller les faire autrement parce que ça n'avait pas de sens. Et le sens, il est dans la quête aussi.
Le sens est dans la quête. C'est sur cette belle parole, Éric Médard, qu'on va conclure cette rencontre. On pourrait encore rester longtemps sur le monde animal et l'art de le retranscrire à travers la photo. Ces photos notamment qu'on peut retrouver tout le week-end ici à Pimpon, au Festival Arrêt Nature, et puis peut-être d'autres expositions.
Il y en a d'actualité. Ouais, il y en a pas de prévu pour le moment, mais par contre, voilà, y a mon site internet qui est toujours visible et puis c'est annoncé dessus quand il y en a.
Voilà, donc c'est www.ericmedard.com, Medard, M-E-D-A-R-D, pour avoir l'actualité et puis les réseaux et d'autres médias par lesquels tu passes. Un grand merci d'être venu sur Timbre FM nous partager ta passion et ton travail sur le monde sauvage et l'art de le photographier.
Merci beaucoup, merci à vous pour votre invitation.
À la bonne heure, on te souhaite un bon week-end ici à Pimpon et peut-être à bientôt en Mayenne.
Merci.
Sur ton territoire.
Le studio mobile de Timbre FM, ça bouge.